Mon domaine de moindre incompétence universitaire, comme on dit, c'est la philosophie politique, effectivement. Mon parcours a été celui d'un agrégé de philosophie, d'abord enseigné en lycée, et ensuite j'ai fait une thèse à l'école des hautes études, comme on vient de le rappeler. Alors le champ de cette thèse est un champ qui échappe à la classification philosophique traditionnelle, c'était études politiques. Et depuis lors, je m'inscris effectivement dans un courant, dans un registre, une méthodologie, disons assez composite. Mon domaine d'étude, ce sont les études politiques. Mon domaine de réflexion, ce sont les études politiques. C'est-à-dire que évidemment, en gardant une dominante philosophique, je suis tourné vers d'autres disciplines. Les disciplines savantes qui s'intéressent à la politique, alors vous pouvez imaginer sans peine, histoire, droit, sociologie, sciences politiques. Alors, donc, ma manière de procéder, vous allez vous en rendre compte, emprunte à ces disciplines. Elle emprunte en particulier le contenu ou le matériau de ces disciplines. Il s'agit pour moi de, si vous voulez, saisir concrètement ce qu'est la politique, quels sont les usages politiques, qu'est-ce qu'une décision politique, qu'est-ce qu'agir ensemble, qu'est-ce que le commun, on va en reparler, à propos de cette notion de nation. Alors, on dit souvent que les sciences humaines et sociales procèdent par jugement de fait, sans jamais porter des jugements de valeur. On appelle cela la neutralité axiologique. Bon, c'est un mot un peu complexe qui signifie que les sciences sociales ne portent pas de jugement de valeur. Alors précisément, c'est la différence entre la philosophie et les sciences sociales. Et c'est ici que ma méthodologie composite est un petit peu problématique pour moi-même. En sociologie, on procède à des mesures, sous la forme par exemple de questionnaires. Ces mesures permettent, d'établir une sorte de photographie objective de l'état d'une société sur une question donnée. En droit, on étudie des normes, des systèmes de normes, étrangers ou français, en droit public, en droit privé, etc. En histoire, on étudie le passé, si possible, tel qu'il s'est produit. Vous voyez, on ne porte pas de jugement de valeur. En philosophie politique, précisément au contraire, on tente de porter des jugements de valeur. Il ne s'agit pas, évidemment, de revenir à l'opinion, il ne s'agit pas de donner son opinion, il s'agit de réfléchir sur les valeurs. C'est-à-dire que les jugements de valeur qu'on porte sont des jugements à propos des valeurs. Il s'agit de savoir si une action politique, si une institution, si une situation politique sont bonnes ou mauvaises. Vous avez probablement entendu parler de l'origine de la philosophie politique avec Platon et Aristote. À l'époque, vous voyez, dans un répertoire antique ou classique, la question était quelle est la meilleure forme de régime? Quel est le meilleur régime possible? Alors les modernes, depuis le XVIe et le XVIIe siècle, depuis l'aube de la modernité, ne posent plus la question exactement en ces termes. La question est plutôt maintenant quelle est la moins mauvaise forme de régime? Mais vous voyez, dans tous les cas, il y a une évaluation. On procède à une évaluation. Cette évaluation fait qu'en philosophie politique, on tente de déterminer, grâce au savoir accumulé par les différentes disciplines savantes qui touchent la politique que j'ai énumérées, on tente de déterminer quelle est la meilleure situation possible, la meilleure forme de régime. Alors, j'ai un peu restitué ce champ de travail qui est le mien à l'Université de Grenoble et à l'Institut d'études politiques, où j'interviens aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la nation. Cette question m'a été en quelque sorte imposée par Yves Michaud, que je remercie. Elle est extrêmement difficile, elle est très périlleuse. C'est une thématique très sensible, vous allez voir. Il s'agit vraiment de risquer quelques énoncés qui sont difficiles, vous allez voir tout à l'heure. Alors, par ailleurs, vous avez vu qu'il s'agit d'une notion à définir. La question qu'on pose est qu'est-ce qu'une nation ? La rudesse de la tâche qui est la nôtre maintenant vient aussi du fait qu'il est très difficile de définir ce terme. La notion de nation recouvre en effet plusieurs sens possibles qui ne joignent pas toujours les uns avec les autres. En même temps, je ne me suis pas dérobé devant la tâche qu'on m'a gentiment imposée, puisqu'il s'agit, avec la notion, d'un des concepts cardinaux, décisifs, fondamentaux de toute la pensée politique moderne. Voilà, on n'en a pas fini avec cette notion de nation qu'il faut élucider, vous allez voir. Alors, la manière dont moi j'aurais tendance à interpréter le thème qu'on m'a demandé de travailler, c'est qu'est-ce que encore une nation ? Qu'est-ce encore qu'une nation ? Il y a une forme de persistance dans l'idée de nation alors même qu'elle est attaquée de toutes parts. Tout pousse à réputer cette notion périmée, tout pousse à la croire dépassée, et cependant, elle fait retour régulièrement sous des formes variables, sous des formes presque déconcertantes par moments. On va y venir tout à l'heure. La question est donc, pour moi, non seulement définir la notion de nation dans ses différentes significations, de vous apprendre quelque chose sur la nation, mais elle est pour moi cette question de m'interroger sur cette persistance de l'idée de nation. Mieux, la question serait, plus affinée encore, de se demander quelle est la pertinence de ces retours de l'idée de nation. Que vaut en elle-même aujourd'hui l'idée de nation ? Vous voyez, mon souci est d'ancrer cette réflexion classique sur la nation, un concept cardinal de la pensée politique moderne, dans une lecture de l'actualité, dans ce qu'elle a de déconcertant. Alors, je parlais d'une difficulté à définir ce terme. Cette difficulté, si vous me permettez, je vais la préciser ici de deux manières. Plus exactement, je vais considérer cette difficulté à la lumière d'une double ambiguïté. Il me semble que la notion de nation est affectée par une double ambiguïté. Elle est doublement ambiguë. Première ambiguïté, quels sont les rapports que cette idée de nation entretient avec l'idée de peuple ? Les termes peuple et nation sont-ils synonymes ? À certains égards, ils sont synonymes. Ils désignent des communautés. Et on peut dire aussi que on peut les rapprocher par le fait qu'ils ont engendré l'un et l'autre des termes en isme qui sont souvent associés. Je m'explique. La nation a engendré, le terme a engendré le nationalisme. Le peuple a engendré le populisme. Très, très souvent, les populismes sont nationalistes et les nationalismes sont populistes. On désigne par là des constructions des intellectuels et des constructions historiques qui concernent la mise en mouvement, la mise en branle de certaines communautés historiques, certaines communautés traditionnelles. On désigne par là les effets politiques produits par ces communautés. On va y revenir tout à l'heure. Alors, je m'empresse de dire qu'il y a ambiguïté parce qu'en fait, ces deux termes, si proches et souvent associés, pris l'un pour l'autre dans la presse, par exemple, dans des articles de presse, eh bien, ces deux termes, on peut les disjoindre, d'où l'ambiguïté. Ils peuvent être rapprochés et ils peuvent être disjoints. En effet, si on se réfère à la réflexion d'un grand historien, théoricien politique, qui a pour nom Ernst Gellner. Eh bien, si on se réfère à Gellner, et notamment à son ouvrage très important « Nations et nationalismes », qui date de 1983, on peut donner du nationalisme une définition précise qui va nous permettre de distinguer assez précisément nation et peuple. Gellner disait que le nationalisme désigne le discours d'action politique qui vise la congruence de deux unités, l'homogénéité de deux unités, le rapprochement de deux unités, l'unité nationale et l'unité d'État. L'unité, en quelque sorte, ethnique, pré-politique, et l'unité institutionnelle, propre à l'État. Il y a donc dans le nationalisme, d'après Gellner, une sorte de tentative de fondre des éléments pré-politiques, des éléments culturels qu'on va définir, et des éléments juridico-institutionnels, la logique de l'État. Le nationalisme, dit Gellner, est un discours d'action et de justification de l'action politique qui est contemporain de la révolution industrielle, donc à la jonction, à l'articulation entre l'époque moderne et l'époque contemporaine. Cette forme d'action et de justification de l'action politique, dit Gellner, dit-il encore, apparaît au moment où il y a une transformation des cultures régionales, locales, qui sont orales, en culture plus globale, quoique particulière, propre à un État-nation, et surtout qui prend une forme écrite, qui prend la forme de l'écrit, les justifications qui peuvent passer par l'écrit. Il peut y avoir une théorisation de la nation par le biais du nationalisme. Alors, si on utilise le standard proposé par Gellner pour définir les nationalismes, vous voyez, c'est un historien qui réfléchit à plusieurs formes de nationalisme dans l'histoire et qui propose une sorte de standard conceptuel. Un idéal type, dirait Max Weber. Eh bien, on peut distinguer maintenant peuple et nation. Le peuple peut désigner, par exemple, la communauté historique qui se rassemble autour d'une langue, autour de certaines traditions, autour de représentations et autour de valeurs. Et on peut désigner par nation un peuple qui revendique le droit à l'autonomie. On peut définir la nation comme un peuple ayant réussi politiquement, parce qu'il s'est senti doté d'une personnalité politique. Alors vous voyez, de ce point de vue, on peut faire plusieurs remarques, dès ici. Le nationalisme est nécessairement d'État, on va y revenir, et surtout, en tous les cas, il est politique. Le nationalisme est politique. La notion de nation, si on l'appréhende par le biais du nationalisme, est une notion qui est moins culturelle et ethnique, et donc moins spontanée, vous allez voir, moins spontanée que construite politiquement. La nation est une construction politique. Vous voyez, il y a une équivoque ici qui, un peu précisée, nous permet d'apercevoir un type de problème sur lequel on va réfléchir dans quelques minutes. Alors c'était mon premier axe, vous voyez, de problématisation, très très, je crois, extrêmement intéressant du point de vue de phénomènes contemporains. D'autre part, ici même surgit la deuxième difficulté et la seconde ambiguïté de la notion de nation. En effet, quelles sont les relations nécessaires entre culture et politique dans la réalité de la nation? À vrai dire, quelles sont les dimensions pré-politiques spontanées et la dimension d'intention politique dans la nation? Alors, je m'explique plus clairement. La politique regarde d'une manière générale ce qui est commun entre les hommes. Elle regarde l'agir collectif, quelles sont les actions qu'on fait ensemble, et au-delà, elle regarde ce qu'on appelle le vivre ensemble. Bon. Alors, dans la nation, il y a donc, dans l'idée de nation, des éléments culturels, des éléments comme la langue, le fait de parler la même langue, comme partager le même imaginaire, comme, au fond, avoir les mêmes goûts culinaires. Vous voyez, des éléments qui sont vraiment pré-politiques. C'est-à-dire, la dimension de la politique n'entre pas dans la cuisine. On se retrouve autour des goûts que nous avons sur le plan amical, familial, social, plus généralement. Bon, il peut y avoir des clubs d'amateurs de vin, par exemple. Ce ne sont pas des choses politiques. Ça relève, sans doute, ça, de l'identité d'une nation. Ça relève d'éléments nationaux, pour ainsi dire. Voilà. Alors, on peut identifier tous ces éléments comme les constituants infra-politiques de l'action politique. Bon. Alors maintenant, si on regarde la politique elle-même, l'action politique et le vivre ensemble, eh bien, ces éléments-là ont-ils besoin des ressorts infra-politiques? À partir de quand y a-t-il politique dans la nation? Un mouvement nationaliste. Alors Gellner, il force un peu le trait, c'est-à-dire que pour lui, un mouvement nationaliste, c'est un mouvement politique. Un soubresaut national, est-ce déjà un mouvement politique? Vous voyez? Pour faire de la politique, avons-nous besoin de la nation? Est-ce qu'on peut imaginer la politique, l'action commune, le vivre ensemble, débarrasser des éléments nationaux, voire de la tentation nationaliste? C'est une vraie question qui se pose de nos jours. On la précisera tout à l'heure à la lumière des éléments dépassement possible de l'idée de nation. Il y a une forte tendance au dépassement, et pour plusieurs raisons, de l'idée de nation. Et la théorie politique, disons que je représente ici, toute discipline confondue, aurait tendance à se dire, c'est le moment, nous pouvons nous passer de l'idée de nation. Alors on va voir que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut se passer de l'idée de nation pour penser la politique? Ou est-ce qu'il y aura toujours du national, voire du nationalisme dans la politique? Avec les conséquences que nous allons dès maintenant intégrer, parce que concrètement, il ne s'agit pas seulement de décider les choses du point de vue de l'université dans un savoir abstrait. Il s'agit pour chacun d'entre nous, et pour chacun d'entre vous, jeune public, de vous demander, dans votre jugement personnel, et au-delà, vous voyez, dans l'opinion publique dont vous faites partie, en France aujourd'hui, il s'agit de savoir si ces facteurs nombreux et importants en faveur du dépassement de la nation font d'elle une idée périmée. Par exemple, très concrètement, il s'agit, vous voyez, à contrario, de considérer est-ce que les éléments de résistance à ce dépassement sont pertinents. Les flambées nationalistes en Europe, qui sont réelles, il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter les informations, il y a régulièrement, notamment dans les Balkans, des flambées nationalistes. Dans nos pays même apparemment plus apaisés politiquement, il y a un discours national ou nationaliste. Vous voyez, que valent-ils ces éléments? Très concrètement, à la fin de cette intervention, J'aimerais que chacun d'entre vous, au fond de lui-même, par devers lui, se dise, voilà, est-ce que moi, je conserve l'idée de nation? Est-ce que mon vote politique, par exemple, est-ce que mes opinions politiques accordent quelque chose à l'idée de nation? Est-ce qu'il faut accorder quelque chose à l'idée de nation? Vous voyez, très concrètement, encore plus concrètement, si vous pouvez me permettre cette incursion dans des choses brûlantes politiquement, en France, les revendications d'un front national. Ces revendications qui sont nationales et nationalistes, qui sont à la fois, qui concernent à la fois la mise en œuvre, la mise en valeur d'un patrimoine ou d'un terroir, la France et les régions françaises, celui des régions françaises, et qui concernent aussi des mesures plus radicales, plus théorisées, concernant par exemple le statut des immigrants en France. Est-ce que les revendications du Front National, revendications à certains égards hostiles aux étrangers, disons les choses, des revendications xénophobes, est-ce que l'existence d'une revendication nationaliste en France condamne ou non l'idée de nation? Est-ce que ce parti, régulièrement condamné pour ses déclarations, pour ses positions, qui est potentiellement inquiétant, est-ce que, à lui tout seul, il condamne l'idée de nation ou il la récupère et il la sauve? Vous voyez, par exemple, voyez, il y a un enjeu crucial là. Parce qu'au fond, perspective nationale ou la tentation nationaliste, elle habite encore complètement nos pays en voie, à certains égards, de dénationalisation dans les mœurs et dans les comportements. Voilà. On va examiner ces questions dans un troisième moment. Alors, le cheminement que je vous propose d'emprunter avec moi sera, comme il se doit, en trois temps. J'ai concocté une merveille de plan, avec une première partie qui portera sur peuples et nations, et qui traitera exactement des ressorts de l'identité collective. Peuples et nations, les ressorts de l'identité collective. Le deuxième moment portera sur nation et nationalisme. On parlera de on va partir de la reconnaissance mutuelle et on va aller vers l'excès d'unité. On va poser la question du nationalisme dans l'histoire. Hein, parce que il y a des tas d'éléments qu'il faut souligner encore, que je n'ai pas encore intégré. Et troisième moment, eh bien, on se demandera s'il faut conserver ou non l'idée de nation. La nation est-elle dépassée comme idée de la théorie politique, ou bien est-elle actuelle? A-t-elle une actualité permanente? Et pour parler comme Nietzsche, une sorte d'inactualité. Est-elle en voie de renouvellement, ou en voie de subtil dépérissement, qu'on appelle la folklorisation? Est-ce qu'on n'a pas un début de folklorisation de l'idée de nation? La folklorisation étant ce mouvement par lequel une culture meurt, sous les formes même de sa pérennisation. Alors, qu'est-ce encore qu'une nation? C'est ce qu'on verra. Alors, premier moment, peuples et nations. Peuples et nations. Alors, quels sont, le premier moment de cette première phase de notre réflexion, vise à identifier les ressorts de l'identité collective. Quels sont les ressorts de l'identité collective? Peuples et nations désignent l'un et l'autre une certaine forme de subjectivité collective. Subjectivité collective qui sont inscrites dans les constitutions, qui sont les textes fondamentaux des différents pays modernes. Par exemple, la constitution française de 1958 porte que le peuple français est souverain. Hein, il possède la souveraineté et il l'exerce par la voix de ses représentants. C'est-à-dire que la souveraineté, on va y revenir, ça désigne le sujet de référence de la vie collective. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, c'est à ce sujet qu'on fait référence. Alors, pour ce qui concerne les peuples et les nations, entendus non pas dans la Constitution, mais justement infra-politiquement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de facteurs tout à fait identifiables, tout à fait différents les uns des autres, mais qui sont reliés par deux idées, je crois, le partage et la tradition. D'abord la langue. Se sentir faire partie d'un peuple, c'est partager une langue. Cette langue, elle est historique, elle est chargée d'histoire. On n'invente pas la totalité des termes qu'on utilise, et même on en invente très très peu. Vous voyez, partager une langue, c'est partager des énoncés, c'est se reconnaître dans une parole. On partage aussi des représentations, qui elles-mêmes sont historiques, vous voyez. Deuxième facteur qui fait ressort pour l'identité collective, la notion de représentation. Alors, j'ai choisi ce terme volontiers, il s'agit d'un, avec dans son ambiguïté même, dans son flou, il s'agit de partager des opinions, des idées, mais plus souvent des opinions, une sorte d'imaginaire collectif, on va y revenir. Là encore, on hérite d'un certain nombre de représentations. Si je dis par exemple à vous ici, qui comprenez ma langue, qui avez des chances de faire partie du peuple français avec moi, si je vous dis Jeanne d'Arc, immédiatement un certain nombre de représentations naissent dans votre esprit. Ça peut ne pas, il peut s'agir de représentations variées, bien entendu, mais grosso modo, des représentations naissent. Si je dis Jeanne d'Arc comme ça à des Coréens, vraisemblablement, même en coréen, il n'y aura pas les mêmes représentations ou pas de représentations du tout. Si je dis Giovanna d'Arco à des Italiens, ils auront des représentations de Jeanne d'Arc, mais pas les mêmes que les nôtres. Elles ne pourront pas leur permettre de se reconnaître de la même manière que pour nous, cet énoncé peut faire lien entre nous. Enfin, il s'agit de partager des valeurs, là encore plus ou moins explicitement. Qu'est-ce qu'une valeur ? Un critère d'évaluation et un critère d'action. Une valeur comme le bien, le juste, le beau, ça nous permet de nous situer par rapport à un événement, par rapport à une situation, dans une situation. Alors, voyons, on pourrait dire que l'identité collective nationale procède par reconnaissance de ce qui est semblable. Reconnaissance de ce qui est semblable, mais aussi, on peut ajouter, par reconnaissance de ce qui est dissemblable, ou de ce qui apparaît dissemblable. Il me semble que la nation, entendu comme sujet collectif, joue toujours comme un mécanisme à deux temps. Il y a autant d'adhésion que de rejet dans l'identité collective nationale. On peut mentionner le simple exemple de la langue. Et j'aurais tendance à évoquer ici la mémoire de ma grand-mère. Elle était née en 1899, elle a connu les deux guerres. En particulier, elle a connu l'exode. Et elle a connu l'invasion du peuple allemand sur le sol français. Les Allemands ont, disait-elle, colonisé sa cuisine. Et elle me disait toujours au sujet des Allemands, tu vois, ils parlent pas comme nous. Et en fait, ils parlent pas vraiment. Les Boches, disait-elle, ils aboient. Ce qui est très intéressant pour notre objet, ça veut dire que si Ferdinand de Saussure a raison, si le signe que nous partageons est une entité biface composée d'un signifiant et d'un signifié, eh bien tout simplement, ma grand-mère faisait l'expérience du pur signifiant. Elle ne saisissait pas le référent des signifiants lorsque l'allemand disait Deutsch, elle entendait un bruit, sans doute un aboiement, elle ne voyait pas que ça signifiait quelque chose d'allemand, de germanique, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que on est inclus dans une communauté nationale quand on partage des signifiés et quand on ne saisit pas spontanément les signifiants des autres. Voilà. D'ailleurs, donc, les choses vont très loin. C'est que un enfant fait partie d'une communauté nationale sans s'en rendre compte. Alors, s'il a la chance d'avoir plusieurs langues possibles à la maison, il va partager plusieurs communautés nationales, plusieurs identités collectives vraisemblablement, de manière assez floue. Mais dans un premier temps, si vous voulez, au fond, la langue procède par inclusion et par exclusion. Le locuteur, celui qui parle une langue, procède par auto-inclusion dans sa langue, et il se sent donc faire partie assez spontanément et diffusément d'une communauté, et il procède aussi de lui-même à une exclusion des autres systèmes de signes. Alors, maintenant, c'est le deuxième moment de cette première partie. La question que je pose, inspirée par Kellner, j'ai donné tout de suite un peu les clés qui vous permettent de comprendre de quel point de vue je parle. La question est de savoir si les ressorts de l'identité nationale, la langue, les représentations et les valeurs traditionnelles qui sont mises en commun, si ces ressorts sont vraiment apolitiques ou infrapolitiques. Il me semble que non. En réalité, tout ça est toujours déjà politique. Je m'explique. Les appartenances collectives, au fond, sont très floues comme identificateurs. Nous nageons, si vous me passez cette expression métaphorique, dans des partages collectifs. En revanche, ils ne nous permettent pas de nous identifier précisément individuellement et surtout pas comme sujet collectif. Je m'explique. Prenons le cas des régions, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Il me semble que se sentir individuellement breton, en France, ou si peu, castillan en Espagne ou lombard en Italie, même authentiquement, ne permet pas une identification très précise des personnes, et sûrement pas des groupes. En d'autres termes, seule une action, une décision, voire un projet articulé en fonction d'une mémoire et d'un avenir, eh bien seulement cela permet de faire passer les appartenances diffuses, quoique réelles, à la bretonitude, à la castillanité ou à la lombarditude, hein, faire passer cela, donc, toutes ces appartenances, à, véritablement, au statut de ressort d'une identité personnelle et collective. Voilà. Il y a une sorte de démarche qu'il faut avoir personnellement et qu'il faut que des leaders, porteurs de conscience collective, aient pour nous. Au fond, l'ethnique ne se saisit vraiment que comme politique. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, sur lesquelles j'ai eu l'occasion de faire le point dans une publication récente, sur le fait que, même en Afrique, si vous voulez, on parle des guerres ethniques. Même en Afrique, l'ethnique, au fond, relève du politique. Dans une situation coloniale, puis post-coloniale, l'ethnique est créée par le politique, notamment par des découpages bizarres des frontières supposées nationales en Afrique. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, le ressort de l'ethnique, c'est une construction politique. Il n'y a pas d'éléments nationaux, si vous voulez, pré-politiques, pour ainsi dire. Alors, si on affine vraiment les choses, et vous voyez, je conclurai cette première partie sur une idée beaucoup plus précise. Je pense qu'il faut faire l'hypothèse de la circularité entre l'ethnique, donc le culturel infra-politique, et le politique à proprement parler, comme projet politique, comme institution même. Il y a une circularité. En effet, l'ethnique, me semble-t-il, a besoin du politique pour devenir actif. Au fond, le politique, projet, institution, décision, concertée, eh bien, tout cela, c'est le principe de l'ethnique. L'ethnique a besoin du politique comme son principe. De son côté, le politique a besoin de l'ethnique pour s'exercer. Le politique, semble-t-il, en tout cas dans les siècles qui se sont, dont nous sommes les héritiers, eh bien, le politique trouve dans l'ethnique son matériau. C'est sur des communautés culturelles traditionnelles que s'exerce le politique. Alors, vous l'aurez reconnu, en tout cas les plus savants d'entre vous l'auront reconnu, ici, on a la matrice de pensée d'un très grand philosophe qui est Hegel. Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, qui écrivait dans ses principes de la philosophie du droit, où il synthétise son enseignement politique, de théorie politique, que la communauté culturelle trouve dans l'État son moyen d'expression. Et de son côté, de leur côté, il n'y a pas d'État qui puisse durer sans puiser ses racines dans une communauté historique, traditionnelle, qui possède un certain esprit, Volksgeist, dit-il, l'esprit du peuple. Voilà. Alors de nos jours, ce type de réflexion a été adapté et transformé à l'usage des sciences sociales descriptives, et non pas philosophiques, par un chercheur très très important qui s'appelle Benedict Anderson. Alors, Benedict Anderson propose l'idée selon laquelle, idée très fine, la nation est une communauté imaginaire. La nation est une communauté imaginaire. Dans cette notion d'imaginaire se trouve l'idée d'une construction dans laquelle la politique, décision, projet, institution, eh bien, prend tout son sens. La nation est une communauté imaginaire. C'est-à-dire qu'elle n'est une réalité pour autant que cette réalité est dotée d'un imaginaire puissant. D'un imaginaire puissant, c'est-à-dire d'une capacité à se projeter, à s'imaginer, à voir engendrer des illusions qui ont une sorte de réalité tout à fait effective. Voilà. Les Français sont vraiment Français lorsqu'ils sont pris dans une construction imaginaire qui s'appelle la France, qui évoque tout leur passé et qui évoque potentiellement un avenir. Voilà. Alors, on en sait davantage, vous voyez, sur le rapport entre peuple et nation. En tout cas, sur la nation à proprement parler. Passons au second moment de notre excursion nationale ou nationaliste, en interrogeant le rapport entre nation et nationalisme. nation et nationalisme. Alors, il faut ici, en affinant la focale, en précisant notre regard, se rendre compte que la nation a joué pendant des siècles, le rôle d'une forme d'intégration ou d'un vecteur d'intégration. Les particularismes culturels qu'elle a saisis se sont trouvés mis en forme et intégrés dans un ensemble plus vaste. Alors, c'est vrai en Europe, mais aussi pour le monde. On peut dire par exemple que la France a connu dans la modernité du XVIe siècle, disons au XIXe siècle, une intégration progressive de différents peuples. Hein, intégration, vous le savez, extrêmement difficile d'ailleurs. En Vendée, certains estiment qu'il a fallu quelque chose comme un génocide pour qu'il y ait cette intégration. L'intégration du peuple corse fait toujours problème. Et Dieu sait comment. Le peuple corse qui revendique d'une certaine manière d'être une nation. De la même manière, en Espagne, les Espagnols ont pris une autre voie. Il y a une nation basque au sein de l'État-nation espagnol. Voilà. Il y a aussi une nation catalane, par exemple. Qui possède une certaine autonomie politiquement. En France, on a des peuples, pas de nations. Mais par exemple, on peut encore mentionner le cas de l'Inde. L'Inde a connu une intégration avec des échelons locaux extrêmement difficiles, féodaux, qu'il a fallu dénouer pour procéder à une identification collective nationale. Hein, tous les pays du monde, si vous voulez, ont connu cette intégration. Alors cette intégration, elle a pour finalité la mise en œuvre d'un concept que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est celui de souveraineté nationale. La nation, entité culturelle et politique, examinée précédemment, eh bien, a pour finalité la souveraineté politique. Voilà pourquoi, dans le puzzle des concepts de la théorie politique normative, la théorie politique, si vous voulez, voilà pourquoi il est très difficile de se passer de l'idée de nation. Parce que si on se passait l'idée de nation, on réussirait à se passer de l'idée de souveraineté nationale. Or ça, croyez-moi sur parole, c'est très difficile. En effet, cette idée de nation, cette idée de souveraineté nationale, elle est apparue dans un contexte terrifiant. Elle est apparue dans le contexte du XVIe siècle européen, dans le contexte des guerres civiles qu'on appelle les guerres de religion. La première mention théorique importante de l'idée de souveraineté se trouve dans l'œuvre d'un certain Jean Bodin. Alors, Jean Bodin est un auteur, un parlementaire français, juriste, qui est extrêmement intéressant. C'est un, grosso modo, un commentateur critique de Machiavel, français. Eh bien, Bodin écrit en 1576 son œuvre majeure, qui s'appelle « Les six livres de la République ». C'est un ouvrage vraiment cardinal, si vous voulez. Hein. Faire des études de sciences politiques consiste notamment à étudier la pensée de cet auteur et de sa postérité, d'un point de vue historique. Concrètement, si vous voulez, Bodin écrit à cette date-là pour une raison précise. Comme vous le savez, en août 1572 a eu lieu un massacre épouvantable qui s'appelle la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy reflète, il s'agit concrètement du massacre des protestants par les catholiques, ça reflète les scissions de la monarchie traditionnelle. Le fait que, au fond, il y a des fractures terribles du fait que les attaches dynastiques ne sont plus aussi fortes qu'au Moyen-Âge. La féodalité comme forme d'intégration n'existe plus. Il faut repenser l'unité politique sur le fond de l'effondrement de la tradition. Il est possible que nous vivions une époque de ce genre. Il est possible que, mutatis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer, il est possible que nous vivions une époque comparable à celle-ci. On y reviendra tout à l'heure. Les violences, peut-être, les formes de violence a évolué, mais elle a changé. Mais c'est peut-être une époque de ce genre que nous vivons. Eh bien, Bodin, à son époque, propose, dans un effort théorique extrêmement intéressant, extrêmement important, une recomposition de l'unité par le biais de la notion de souveraineté nationale. Ce travail qu'il mène à bien procède par, si vous voulez, une assimilation de la nation à la légitimité d'un pouvoir central. Voilà. C'est un penseur de la hiérarchie qui estime qu'il peut y avoir des liens entre la nation entendue comme entité culturelle dans un territoire donné et la légitimité d'un pouvoir central par le biais d'un certain nombre de relais administratifs qui sont les relais de l'État. Vous voyez ? En fait, vous voyez, c'est tout un que de sauver l'unité d'un peuple fracturé, construire l'idée d'État et donner au monarque les clés d'une souveraineté absolue, d'un pouvoir légitime absolu. Voilà. Bodin procède à ce travail qui vaut pour la France et qui va valoir, là encore mutatis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer, qui va valoir pour toutes les nations européennes. Il n'y a guère qu'une nation qui va procéder autrement, qui va fournir un contre-modèle à ce système de souveraineté nationale. C'est un pays qui va servir de modèle véritablement pour une sorte de contre-modernité. Ce pays va procéder par fédération, et il s'agit des USA. L'alternative à la construction de la souveraineté nationale par Bodin, c'est la création des USA à partir de la constitution de 1787 et ses amendements 1791. Voilà. Les constituants américains qui sont nourris de Montesquieu, voilà, de leur côté. Alors, on ne va pas développer ce point, mais la souveraineté nationale est en quelque sorte, pour résumer, un absolu fondateur. C'est un absolu fondateur pour le vivre ensemble. Elle conditionne profondément cette souveraineté, cet absolu conditionne profondément ce qu'on peut nommer les déterminants essentiels du vivre ensemble. D'abord, pour vivre ensemble, concrètement, il faut organiser un territoire. Il faut délimiter des frontières. Deuxièmement, il faut mettre en valeur un patrimoine et des richesses pour que les gens s'y reconnaissent et aussi pour que la population ait de quoi manger. Enfin, il faut délimiter les critères de citoyenneté. La souveraineté est une notion qui permet de délimiter les critères de citoyenneté. C'est-à-dire de délimiter les moyens concrets de l'action collective. Alors, vous savez, ici, une question fait brutalement irruption dans l'actualité depuis un certain temps, c'est celle des sans-papiers. La question de la nation, par le biais, si on l'analyse par le biais de l'émergence de la souveraineté nationale du XVIe siècle à nos jours, eh bien, c'est notamment celle de ces sans-papiers qui sont des gens qui viennent d'un autre pays et qui sont exclus de leur pays sans être inclus dans le nôtre. Ce statut est extrêmement tragique. Il a été identifié par un penseur majeur, une penseuse, une auteure majeure de l'époque contemporaine, Hannah Arendt. Il a été identifié comme celui des apatrides. Hein, le problème de la souveraineté nationale pose de manière contemporaine ou se pose sous la forme du problème des apatrides. Alors ce penseur, c'est Hannah Arendt, j'écris son nom. On y reviendra tout à l'heure, j'aurai l'occasion de mentionner une deuxième fois son nom. Alors, on reviendra plus tard aussi sur la question des apatrides et des sans-papiers. Le deuxième point de ma deuxième partie, plus rapide, consiste à souligner la conséquence de cette liaison entre nation et souveraineté. Étant un vecteur d'intégration, la nation est aussi le ressort d'une unité fantasmée et excessive. En effet, si nous reprenons brièvement la question des sans-papiers, nous pouvons considérer, rien qu'en les écoutant, que leur existence est amoindrie à partir de ce qu'on peut nommer une interprétation très étroite des clauses de citoyenneté. Voilà des gens qui vivent dans un pays, ou qui aspirent à vivre dans un pays, à s'y installer, et qui n'ont pas les moyens réels de le faire, puisqu'ils n'ont pas tous les titres de nationalité, tous les droits de cité, ces titres de nationalité qui confèrent le droit de cité, c'est-à-dire qui donnent l'accès, qui ouvrent l'accès aux capacités concrètes que sont la sécurité sociale et aux moyens d'action politique que sont les critères de citoyenneté, si vous voulez. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est on peut s'apercevoir que dans la question des sans-papiers se joue véritablement l'idée qu'il y aurait une unité du peuple français qui saurait spontanément se reconnaître et que des gens qui ne sont pas comme nous, effectivement, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes représentations mentales, ils ne parlent pas la même langue, et bien ces gens-là ne sont pas français, donc on n'est pas forcément obligé de leur donner, même s'ils ont été exclus de leur pays pour des raisons dramatiques, on n'est pas obligé de leur donner la citoyenneté, de leur accorder la citoyenneté. Vous voyez, il y a en quelque sorte, dans la question des sans-papiers, on peut l'interpréter de manière à sentir cet excès d'unité que postule peut-être pas la nation, mais le nationalisme. On a pu dire que le nationalisme était moins l'amour des siens que la haine des autres. Le patriotisme serait, lui, l'amour des siens, tandis que le nationalisme serait la haine des autres. Eh bien, on peut remarquer que cette haine des autres, cette tentation xénophobe, cette tendance à une unité, à la postulation d'une unité essentielle, un noyau dur de l'unité nationale, elle est permanente dans le discours national. On peut le voir par exemple en France, en Allemagne au XIXe siècle. On peut le voir aussi de nos jours dans l'Inde, dans le conflit qui oppose l'Inde au Pakistan. Tout se passe comme si les nations avaient besoin d'ennemis et comme si le nationalisme était moins le spectre qui hante éventuellement la nation que le doublé permanent de l'idée de nation. Alors, j'ai dit tout à l'heure, dès le début, que c'était une question terrible et extrêmement sensible. Nous y voilà. Prenons maintenant le cas de l'opposition entre les pays arabes et Israël. Pour un théoricien politique comme moi, il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Il ne s'agit pas de conflits religieux. Il s'agit de conflits nationaux, ethnico-politiques. J'en veux pour preuve l'inflation du conflit, le recours permanent à la force, depuis qu'il est question d'une autorité palestinienne, qu'on n'a même pas voulu nommer État. Cette autorité palestinienne, si vous voulez, est une entité ethno-politique, est une nation qui, dans son principe même, pose problème à la nation à la fois israélienne et juive, de telle manière qu'on voit réapparaître des formes exacerbées de nationalisme. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si on inclut ici, vous voyez, du religieux, les esprits peuvent s'échauffer et on peut perdre tous nos moyens d'analyse. Mais il me semble que la notion de conflit religieux, comme elle était sensible au XVIe siècle en tant qu'élément susceptible d'embraser un conflit civil, m'a fait retour de cette manière-là. Il s'agit vraiment d'éléments qui peuvent embraser une question ethno-politique. Vous voyez, donc dans l'histoire, le nationalisme, qui est ni plus ni moins que le double permanent de la nation, repose sur un fantasme d'identité qui surinvestit, je crois, les critères culturels que la reconnaissance mutuelle permet. Il me semble même qu'il y a une inflation nationaliste, justement quand cette reconnaissance est en question, quand elle est en crise en fait. Le nationalisme surgit quand la nation ne va pas d'elle-même. Il surgit précisément comme une sorte de relais politique qui se fait passer pour de l'ethnique à partir du moment où on ne sait plus ce que c'est que vivre ensemble. Et on s'aperçoit que dans l'histoire, là encore, le caractère guerrier du nationalisme, son caractère guerrier fait de lui, bien sûr, moins un principe de fédération, comme était la nation, ou d'intégration, qu'un principe de division, d'hostilité, d'opposition. Le nationalisme fait moins agir qu'il dispose au sacrifice les nationaux, les citoyens d'une nation. Alors, ce qui est très intéressant, si on reprend l'analyse de Hannah Arendt, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, c'est que nous sommes à un moment de l'histoire, depuis un certain nombre d'années maintenant, particulièrement important de ce point de vue. En effet, le nationalisme, par le biais de moyens technologiques typiquement modernes et contemporains, si vous voulez, est devenu totalitaire. On n'a pas encore parlé du national-socialisme. Ce terme de nation et de nationalisme, ces termes, ils sont lourdement tachés par l'existence d'un national-socialisme, qui a correspondu à la fois à une inflation du discours traditionnaliste, hein, avec un pan-germanisme des discours qui exhibaient la culture allemande, véritablement la reconstituer, etc. Il y avait ça dans le national-socialisme, il y avait aussi une doctrine de l'État extrêmement forte. Et c'est en cela qu'il y avait totalitarisme. Il y avait une structure d'État qui transformait le nationalisme en quelque chose d'inouï. Et donc, la mort des totalitarismes, en particulier du fascisme et du nazisme, le fait qu'ils aient été vaincus sur le plan des faits, des idées aussi, si vous voulez, eh bien, met en question le nationalisme, évidemment, rend suspect toutes les formes de nationalisme, et vraisemblablement, cela contamine aussi l'idée de nation. D'où la troisième partie. La nation est-elle dépassée ou est-elle actuelle? Donc cette... Voilà, d'où le titre que j'avais choisi. Qu'est-ce que encore une nation? Alors... Quels sont les facteurs de dépassement de la nation. Qu'est-ce qui fait, si on, maintenant on restreint l'analyse à ce point, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même dire que, ben, précisément, outre tout ce que j'ai dit, eh bien, maintenant la nation est quelque chose de périmé. On peut d'abord mentionner des éléments politiques qui permettent d'imaginer un monde sans nation, qui permettent de saisir très concrètement la réalité post-nationale que nous vivons. D'abord, la construction européenne. C'est un point extrêmement important qui a renouvelé la théorie politique. Il y a une sorte de sous-spécialité dans la théorie politique, toute discipline confondue, c'est européaniste. Ça concerne le droit, la philosophie, ça concerne l'histoire, la sociologie, la science politique. En effet, l'Union européenne, dans sa construction progressive, d'une part, est le reflet, porte en elle le reflet des contradictions et des apories, des conflits entre nations et de l'inflation nationaliste des 19e et 20e siècles. Mais aussi, d'autre part, la construction européenne a valeur de modèle. Elle est même en elle-même, l'Union européenne est en elle-même ce qu'on appelle un paradigme régulateur. C'est un modèle qui nous sert à agir pour l'avenir. Il s'est passé en effet quelque chose d'inouï. Il s'est passé de manière non guerrière, non belliqueuse, sans qu'il y ait de dominant et de dominé. Il s'est passé, il se passe, un dépassement de la souveraineté nationale au profit de la recomposition d'une nouvelle forme de souveraineté, une souveraineté fédérale par exemple. Voilà. Il s'agit ici, avec les transferts concrets de souveraineté, véritablement, de l'institution progressive d'une nouvelle forme de vie ensemble, d'action collective et peut-être, vous voyez, de culture non nationale, culture politique non nationale, en tout cas antinationaliste. C'est le premier élément. Deuxième élément, non moins important, la globalisation économique. Le fait qu'on assiste à une mondialisation par le biais du commerce. Alors pour la théorie politique, notamment pour le droit, il se passe ici quelque chose de capital. Et là encore, complètement original. Personne n'a jamais connu ça depuis que l'histoire existe. Il s'agit d'une unification juridique du monde sous l'effet d'un droit qui n'est pas le droit public, qui n'est pas le droit international de la régulation interétatique. Il s'agit, en effet, d'un changement de modèle, d'une inversion de paradigme, comme on dit, en ceci que le droit privé a plus de normativité, le droit des affaires a plus de normativité que le droit, au niveau international, que le droit public. Le droit public concerne ce qui se passe à l'intérieur des nations, concerne le statut des nationaux. Le droit privé concerne les relations internationales. Alors, cela serait vrai, hein, je vous donnerai la parole tout à l'heure, cela serait vrai s'il y avait, par ailleurs, une extension mondiale du droit public, avec des sanctions particulières, une normativité particulière, un ordre d'obligation particulier, avec la mise en œuvre de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, vous voyez, c'est le troisième élément d'ordre politique ou institutionnel qui permet de penser un dépassement de la nation et des nationalismes. Vous voyez, construction européenne, globalisation économique et, de toute façon, mise en œuvre de l'Organisation des Nations Unies avec la charte de San Francisco qui pense un ordre de sanctions international. D'autre part, il y a un dépassement non seulement politique de la nation et des nationalismes, ou une réfutation des nationalismes d'ordre politique. Il y a aussi un dépassement ethnique de la nation. La nation se trouve contestée dans sa dimension politique, mais aussi dans sa dimension ethnique. En effet, et le point me semble extrêmement sensible, je vais m'adresser aux franciliens parmi vous. Je ne sais pas si ça trouve un écho chez vous. Moi, je viens d'une région, Grenoble est dans la région Rhône-Alpes, où c'est ce que je vais dire a un écho particulier. La nation est dépassée par la région de nos jours. Le critère d'appartenance collectif est moins la nation que la région. Du moins, là encore, méfions-nous. Peut-être est-ce ici moins un discours culturel et ethnique qu'un discours politique. Mais on n'y échappe pas, je vous l'ai dit depuis le début. On n'échappe pas au fait que la nation, en tout cas le ressort de l'identification collective, est quelque chose de politique, de toute façon. C'est matériellement ethnique ou culturel, mais enfin formellement c'est politique. En d'autres termes, ce sont des discours qui sont tenus là-dessus. Concrètement, la région Rhône-Alpes est une région à la puissance de feu économique et sociale extrêmement forte, qui s'identifie elle-même, son slogan c'est Rhône-Alpes la citoyenne, elle s'identifie comme une région vectrice de citoyenneté, c'est-à-dire vectrice d'identification nationale collective, comme l'était l'État-nation autrefois. Je ne sais pas si l'Île-de-France revendique à la même autorité, disons les choses, mais ce que je sais, c'est par exemple qu'il y a partout en Europe, en Catalogne, en Lombardie, au bas de Württemberg, il y a les mêmes discours concernant le fait que l'identité collective, en tant qu'ethnique et politique, et peut-être surtout politique, se décide désormais au plan infranational, au plan régional. Il y a un déplacement de l'identité collective de la nation à la région. En tout cas, ce que je remarque, c'est que il y a ici un néo-régionalisme d'inspiration libérale totalement nouveau. Ce néo-régionalisme prend acte de la globalisation économique, paradoxalement. On a connu, surtout quand on fait un peu d'histoire, les années de réémergence du folklore, du désir d'identification locale contre l'État, par exemple, quand il y a eu dans les années 70 une reviviscence des langues des peuples français, le basque, les basques français, les bretons, etc. Là, il s'agit maintenant d'autre chose. Il s'agit de régions structurées institutionnellement qui sont mues par des préoccupations économiques et sociales, qui prennent acte de la globalisation et qui en même temps mettent en avant une dimension ethnique et culturelle. Donc on a un mix absolument étonnant sur lequel la sociologie politique se penche de nos jours, la science politique se penche là-dessus, sur le fait qu'il y a une forme d'intégration ethnique et politique par le biais de la région qui, quoi qu'on en pense, est en train de s'opérer. À tel point qu'il y a très concrètement, il y a des associations de régions, des cartels. Si on associe par exemple Rhône-Alpes, la Catalogne, la Lombardie et le bas de Württemberg, ça donne une puissance de feu économique et sociale supérieure à certains États. Et d'ailleurs, il y a une certaine, si vous voulez, les régions communiquent là-dessus en disant voilà, nous nous associons à telle région, telle ou telle région sur tel point, et nous avons un produit intérieur brut, par exemple, qui est supérieur, par exemple, à la Belgique, etc. C'est une réalité complètement nouvelle, ça, si vous voulez. Alors, dernier élément, plus flou, mais non moins authentique, je crois, la notion de culture elle-même a été retravaillée. La culture est moins holiste qu'individualiste, pour ainsi dire, de nos jours. En ce sens que l'individualisme démocratique engendre une sorte de néo-tribalisme. Je m'explique très concrètement. Chacun d'entre vous fait peut-être partie de petits groupes qui lui permettent de s'identifier. Chacun revendique des affiliations particulières privilégiées de nos jours. La culture est moins constituée de vastes ensembles de représentations, de valeurs et de significations que de sous-groupes où chaque individu crée et se lie et se délie progressivement ses appartenances, reconfigure des appartenances. Et voyez, de ce point de vue, la nation est en voie aussi d'éclatement ou de fragmentation de ce point de vue. Les individus que vous êtes, que nous sommes, peuvent avoir, notamment par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, par le biais d'Internet, des amitiés culturelles à l'autre bout du monde et former des sortes de communautés très fortes, très authentiques, quoique susceptibles de se délier, de se reconfigurer autrement, et qui fait qu'on se sent moins, par exemple, français ou même breton qu'amateur de telle musique qu'on pratique ailleurs dans le monde, etc. Donc il y a une sorte de reconfiguration des identités individuelles par le biais d'affiliations à des identités collectives nouvelles. Voilà. Alors d'où ce dernier point de mon développement, y a-t-il véritablement lieu de préserver la nation? Que reste-t-il au fond de la nation, une fois qu'on a dit tout ça? Alors je fais d'abord une remarque paradoxale. La nation, dans ce contexte, j'ai pu remarquer qu'elle était utilisée par moments dans le sens d'une anti-globalisation ou d'une anti-extension de la souveraineté. Dans un sens anti-européen en particulier. Le nationalisme politique et culturel, finalement, fait même partie du répertoire de l'altermondialisme, d'une certaine manière. On oppose souvent, et c'est un peu ce que fait le Front National, il oppose régulièrement au transfert de souveraineté européen l'idée d'une nation forte. Il oppose à l'idée de la globalisation qui dissout les nationalités et qui inverse le paradigme du droit privé et du droit public, il oppose l'idée d'une d'un dynamisme national ou nationaliste. Alors c'est un point extrêmement paradoxal finalement, ça. Je dirais aussi, deuxième argument, qui fait que la nation revient, les appartenances, du fait que la culture est devenue quelque chose de plastique, du fait que la culture est moins holiste, c'est moins un tout qui englobe les individus, que l'ensemble des affiliations individuelles, des appartenances revendiquées, eh bien, de ce point de vue, la culture est devenue, la nation est devenue quelque chose de plastique à son tour. En ce sens que, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un événement sportif de grande importance, c'est pas très difficile de mettre des gens dans la rue. Même et surtout les jeunes qui ont envie de faire la fête et qui finalement trouvent sympathique d'agiter le drapeau, de se mettre des couleurs bleu, blanc, rouge, tout à fait gay sur le visage ou ailleurs sur le corps. Et voilà, donc si vous voulez, il me semble très intéressant de voir qu'il y a là une résurgence très, très vivante, hein, une réanimation de l'idée de nation. Moi qui vous parle, j'étais dans la rue, à Rouen à l'époque, le soir de la victoire de la Coupe du Monde en 98, et j'étais pas peint en bleu, mais mes enfants l'étaient, par exemple. Et il y a eu l'Euro 2000 aussi, je crois. Et bien, deux ans après, exactement la même chose. Donc, l'équipe bleu-blanc-rouge était devenue l'équipe black-blanc-beurre. Cette manière de procéder est tout à fait intéressante. Cette résurgence du nationalisme par le biais d'un événement national. Où se reconfigure une sorte de dépassement du nationalisme par le patriotisme. Plutôt un amour des siens, mais réel, qu'une haine des autres. Donc si la nation fait retour, c'est peut-être dans ce qu'elle a de meilleur à ce niveau-là. Une sorte d'identification fraternelle, une sorte de fraternisation en acte. Tout récemment, n'avons-nous pas été émus de constater que Faudel, chanteur beurre s'il en est, revendiquait avec sa chanson « Mon pays », c'est ça ? La victoire du président Sarkozy. Et les plus cultivés d'entre nous ont tous remarqué qu'il a chanté après Mireille Mathieu. Que Faudel chante « Mon pays » où il dit qu'il ne connaît qu'un pays, la France. Et si on écoute les paroles très intelligentes, il explique que, en réalité, il n'est pas d'Algérie. Il est d'ici. Son pays, c'est la France. Eh bien, quiconque a entendu ces paroles chantées après celles de les mille colombes, de cette icône de la France qu'est Mireille Mathieu, quand même, qui était l'égérie, la muse du président Giscard d'Estaing, enfin quelque chose comme ça, eh bien, si vous voulez, bah, écoutez, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui avait à voir avec l'ethnopolitique en acte. La France se compose d'identités multiples, c'est un pays d'immigration, voilà un jeune beurre qui s'identifie au projet politique du président Sarkozy, qui lui-même est d'origine étrangère. Non, sa mère est hongroise. Alors, en même temps, si vous voulez, s'agit-il véritablement d'un retour du national, sous la forme du patriotisme, ou bien s'agit-il d'un des avatars de la culture festive propre à l'individualisme ? Ne s'agit-il pas même d'une folklorisation ? C'est-à-dire, comme je l'annonçais depuis tout à l'heure, au fond, une sorte de dépérissement de quelque chose, pourtant dans la forme même de sa persistance. On se trouve à se folkloriser quand, par exemple, les Indiens dans les réserves se mettent à faire des pow-wow ou se déguiser rituellement pour les touristes, pour avoir quelque argent. Lorsqu'on se met à se regarder vivre culturellement. Vous voyez, lorsque les écomusées remplacent dans les régions les créations originales. Voilà, lorsqu'on met en scène véritablement la nation. Alors, je conclurai rapidement en me posant la question, en vous la réadressant, quelle place aujourd'hui pour la nation ? Ce qui veut dire, plus précisément entendu, quelle place pour la nation dans les démocraties, dans nos démocraties qui sont toutes situées historiquement et culturellement. On l'a dit, la nation permet un lien national, ethnopolitique très important. Elle est un facteur de régulation peut-être dans la globalisation. Et il y a quelque chose de pertinent dans ce qu'objecte le Parti nationaliste français à cet égard. Peut-être, sous une certaine forme. Toute xénophobie mise à part, la nation est effectivement quelque chose qui permet une souveraineté en acte, qui permet de contester certains effets contestables de la globalisation. Enfin, cependant, peut-on penser la nation sans nationalisme ? Et en quoi cela consisterait réellement ? Peut-être une nation démocratique est-elle d'abord une nation qui respecte un universel, pas du tout inassignable à la nation, à savoir les droits de l'homme. Un universel qui est transnational, par définition, et qui surtout est pluriel. La nation démocratique implique le respect de la pluralité. Elle implique la négation de cet excès d'unité qu'engage toujours le nationalisme. Elle repose sûrement sur des critères comme la légalité ou la publicité, le fait de rendre public toutes les décisions. En d'autres termes, il est possible peut-être de penser une nation post-nationaliste dans le contexte des démocraties contemporaines. Merci.